best-seller en partenariat avec l'Heureux Séjour.
Bonjour Agathe Brasse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, il y a 80 ans, le 6 juin 44, il y avait le débarquement de Normandie. Nous l'avons célébré et 4 jours après a eu lieu la tuerie d'Oradour-sur-Glane, un village qui a été encerclé par des Allemands où 643 personnes ont perdu la vie. Votre grand-père a été le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane. C'est donc l'objet d'un livre publié par Mélissa Bouffgui, où vous avez témoigné avec votre grand-père et une réédition est sortie cette année. Alors pour commencer, pouvez-vous nous parler de cette histoire, de ce village encerclé par les Allemands?
Alors l'histoire d'Oradour, c'est effectivement un bourg paisible du Limousin, donc dans lequel vit mon grand-père. Il y est né en 1925. Donc, comme vous l'avez dit, le 10 juin 1944, une division SS, la Das Reich, viendra à Oradour, encerclera le village, rassemblera la population sur la place principale, séparera les hommes des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants seront amenés dans l'église du village où ils seront tués le plus souvent par les flammes, puisque les soldats, après la mitraille, incendieront l'église, et les hommes, eux, ont été amenés dans des granges, des garages, des remises, où ils seront d'abord mitraillés, puis on mettra également le feu à leur cadavre. Mon grand-père, lui, se trouve dans l'une de ces granges, la grange qu'on appelle la grange Lodi. Il y est amené avec une cinquantaine d'hommes. Il va subir la mitraille, le feu, mais il a pu survivre à tout ça, s'échapper, quitter le village. Après le massacre, ce sera 40 ans de silence. Il parviendra pas à témoigner tout de suite avant de devenir effectivement le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane, puisqu'il se sera évertué à témoigner devant le plus grand nombre.
Vous l'avez dit, 40 ans de silence. Comment vous l'avez-vous appris en tant que petite fille?
Alors moi je l'ai appris parce que j'arrive justement certainement à une période propice. Je nais au début des années 90. À ce moment-là, mon grand-père a pu travailler sur lui-même, sur sa relation au massacre, sur ce qu'il avait envie d'en faire. Effectivement, en 1944, il a 18 ans. Il va avoir 19 ans, c'est donc un très jeune homme. Il va d'abord, après la guerre, essayer de construire et une carrière et une famille. Et puis, il ne parle pas de ce qu'il a vécu à Oradour parce que, d'une part, c'est trop difficile. Aussi, il ne veut pas transmettre son traumatisme et sa souffrance. Pour lui, il doit la garder pour lui, et les autres, de toute façon, ne pourront pas régler le problème. Quand il va devenir père au début des années 60, il veut pas transmettre sa souffrance à son fils. Et puis, il y a aussi le fait que dans les années 50 ou 60, le devoir de mémoire tel qu'on l'entend aujourd'hui n'existe pas. Et puis aussi que c'est aussi ce que disent les rescapés de la Shoah. Dans ces années-là, on veut s'éloigner, on veut pas oublier la guerre, mais en tout cas on veut s'éloigner, oublier les malheurs de la guerre. Et donc beaucoup de témoins expriment cette sensation de ne pas parler parce que ils avaient pas l'impression qu'on allait les écouter, ou en tout cas qu'on avait envie de les écouter, et donc ils gardent cette souffrance pour eux. Et donc moi j'arrive dans les années 90, les choses ont changé, on commence à parler de devoir de mémoire, les premiers témoins ont disparu, et donc moi mon grand-père va avoir un gros déclic en 1988 à la mort de la seule rescapée de l'église, qui part justement sans avoir écrit, sans avoir parlé. et lui se dit, moi, il faut que je parle. Il va commencer à écrire, et puis, eh bien, moi, je suis là, j'assiste à tout cela, et donc j'ai toujours connu mon grand-père comme passeur de mémoire, et il va m'imprégner de cette mission extrêmement rapidement. Je pense que j'ai toujours entendu parler de tout ça. Il y a toujours eu au Radour dans mon environnement. Moi, j'ai grandi dans le Nouveau Bourg, et donc tout ça a été tout cet héritage a toujours fait partie de moi.
Vous l'avez dit, votre grand-père avait 18 ans le 10 juin 1944. Premier petit point, enfin premier point, il a perdu toute sa famille.
Alors, lors du massacre d'Oradour, il perd sa mère et deux de ses sœurs. Il a une sœur aînée qui, elle, était déjà mariée, qui ne vit pas dans le bourg, donc il retrouvera après le massacre. C'est d'ailleurs chez elle qu'il trouvera refuge. Et son père était absent, et donc il aura également son père qu'il pourra retrouver le lendemain. Mais la perte de sa mère et ses sœurs, c'est son grand traumatisme.
Deuxième point, donc il a 18 ans et il me semble avoir entendu une de vos interviews où vous déclariez qu'après la tuerie d'Oradour, il s'est jeté dans le travail.
Effectivement, alors immédiatement après le massacre, d'abord il va être récupéré par la résistance pour le protéger, puis il va s'engager dans l'armée jusqu'à la fin de la guerre. Et effectivement, quand il rentre en Limousin en 1945, eh bien il faut bien occuper sa vie, donc il va reprendre ses activités dans le garage dans lequel il travaillait au moment du massacre. Et puis, eh bien, il faut se réaliser, il faut faire sa vie d'homme. Il est tout jeune, et donc, eh bien, la seule chose qu'il trouve pour se réaliser, c'est le travail. Et donc, il va se jeter dans le travail, et c'est même sûrement ce qui comptera, la seule chose qui comptera pendant un certain temps.
Aujourd'hui, quels sont les restes d'Oradour dans l'histoire française?
Je pense qu'il y a eu plusieurs périodes. Si on se pose la question aujourd'hui, dans notre présent, en 2024, je crois qu'aujourd'hui, Oradour est un symbole national, un symbole de la barbarie nazie, des souffrances des populations civiles, mais aussi un symbole de résilience, de mémoire, de donc je, mais ça a pas je suis pas sûr que c'était toujours le cas. Peut-être que dans le passé, c'était une histoire beaucoup plus locale. Aujourd'hui, Oradour résonne à l'échelle nationale.
Le village d'aujourd'hui, d'Oradour, celui de 44 a été complètement brûlé par les Allemands. Il me semble qu'il y a un nouveau village maintenant.
Alors, il y a un nouveau village, effectivement, après le massacre. Le général de Gaulle viendra à Oradour en 1945, et décrétera que les ruines du village martyr seront conservées en l'état comme témoin de la barbarie et des souffrances des populations civiles. Et donc, la décision est prise de reconstruire un nouveau village à l'immédiate proximité. Donc, ce village est reconstruit et sera investi par ses habitants en 1953. Moi, c'est dans ce village, dans ce nouveau bourg, que j'ai grandi et que j'habite encore aujourd'hui.
Il est toujours possible de visiter les ruines de l'ancien village, n'est-ce pas?
Les ruines de l'ancien village sont toujours ouvertes au public gratuitement. C'était quelque chose d'important qu'elles puissent être accessibles à tous. Elles sont accessibles quasiment toute l'année. Je crois qu'il y a quelques jours de Noël qu'on ne peut pas y accéder. C'est toujours ça, la commune d'Oradour, c'est toujours ce nouveau bourg et le village martyr qui est là, présent, avec lequel on cohabite.
Il y avait un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était ce procès de Bordeaux.
Le procès de Bordeaux, c'est donc le procès dit d'Oradour. Donc à ce procès-là, il va y avoir 21 accusés présents. Des accusés seront jugés par contumace. Il n'y a pas eu d'extradition pour le procès de Bordeaux, et donc ne sont présents que des soldats qu'on aura pu identifier et convoquer en France. Donc 21 accusés, 7 Allemands qui étaient prisonniers en France, qui ont donc pu être amenés au procès de Bordeaux, et 14 Alsaciens, donc français, qui sont ce que l'on appelle des malgré nous. Alors, parmi ces 14 Alsaciens, il y a 13 malgré nous et un engagé volontaire. Ce qui va faire la particularité et du procès à Oradour, c'est justement cette question des Alsaciens et de l'enrôlement de force. Aujourd'hui, il est reconnu que l'enrôlement de force des Alsaciens dans les armées et dans les troupes allemandes est un crime de guerre. Seulement en 1953, cette notion-là n'est pas encore tout à fait au clair, et donc les Allemands, eux, vont être jugés et condamnés à des peines de prison ou à des peines de mort. Et concernant les Alsaciens, après un premier verdict, il va y avoir une loi d'amnistie qui sera votée, et donc les 13 Alsaciens, donc pas le volontaire, les 13 Alsaciens malgré nous, enrôlés de force, eux seront amnistiés. En 1953, effectivement, quand la communauté à Oradour apprend cette nouvelle, c'est quelque chose de très difficile, puisque effectivement on considère que ces Alsaciens étaient présents à Oradour, ont participé au massacre de la population, et qu'ils ne sont pas condamnés. En 1953, pour la population à Radour, il n'est de toute façon pas possible d'admettre et d'accepter cette décision, puisqu'on n'est que seulement 9 ans après le massacre. Et donc, comment expliquer à une maman qui a perdu 6, 7 enfants qu'au nom de la réconciliation et de la réintégration de l'Alsace au territoire français, on ne condamnera pas les Alsaciens? C'est pas possible. Aujourd'hui, le temps est passé, et en 2024, on peut voir les choses de manière différente. Aujourd'hui, on reconnaît effectivement que le roulement de force est un crime. La seule chose qui est toujours difficile et qui n'est pas entendable pour les familles des martyrs, c'est qu'effectivement, l'amnistie qui a été choisie en 1953 n'est pas la solution la plus juste en termes juridiques. L'amnistie, ça veut dire il ne s'est rien passé, donc vous n'êtes pas condamné. Alors que si la grâce avait été choisie, la grâce, ça suppose que il s'est passé quelque chose, mais au titre de circonstances exceptionnelles, vous n'êtes pas condamné. Et donc la grâce aurait aujourd'hui, en 2024, fait justice, alors que l'amnistie est toujours une injustice. Alors bien sûr, on est en 2024, personne à Oradour ou ailleurs ne demande à ce que ce jugement soit revu, mais c'est effectivement la petite subtilité. Aujourd'hui, les relations avec l'Alsace sont tout à fait apaisées. Mais voilà, quelle a été la particularité du procès de Bordeaux?
Agathe Brasse, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. On rappelle le livre Le dernier témoin d'Oradour sur Glane, votre grand-père, une réédition, édition spéciale pour les 80 ans, hommage à votre grand-père, pardon, Robert Ebras. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'était Best-seller en partenariat avec l'Heureux Séjour.